Politeia, portrait d'élu de proximité. Une émission réalisée par Véronique Leroux et Margot Bonnet. Clarisse Réallet a 38 ans et vit à Châteaulin. C'est par amour pour sa compagne qu'elle est revenue vivre dans le bourg de sa grand-mère il y a maintenant 10 ans. Lors des dernières élections municipales, comme il n'y a personne face à la maire sortante qui se représente, elle décide de compléter la deuxième liste pour que vive la démocratie locale. Depuis 2020, elle est donc élue municipale dans la minorité. Son motto ? Lutter contre l'injustice. Engagée, optimiste et créative sont les trois mots qu'elle a choisis pour se décrire en ouverture de cette belle rencontre.
Je me suis sentie engagée déjà jeune au lycée avec des initiatives que je portais. J'étais déléguée du lycée, j'avais organisé des conférences, des collectes de jouets, ce genre de choses qu'on fait quand on est jeune et qu'on a envie de se sentir utile. Et puis plus récemment et plus clairement, en tout cas depuis les dernières élections municipales où je me suis présentée comme candidate à la mairie de Châteaulin. J'étais assez dévastée de voir qu'il y avait potentiellement pas de candidat en face de Gaëlle Nicolas, la maire sortante. Et donc, j'ai contacté l'appel aux citoyens lancé par les élus de gauche de la commune pour participer à la constitution de la liste, sans aucune intention d'être de liste. C'est un choix qui s'est fait ensuite, lorsqu'il fallait que l'une des personnes de la liste se porte volontaire, et où j'ai mené cette réflexion à la maison, avec ma conjointe, et où je me suis dit, allez, bon, j'y vais. S'il faut y aller, il faut y aller.
Vous êtes élue dans la minorité. Comment faites-vous pour vous faire entendre et mettre en place votre projet de mandat ?
Quand on est élu dans la minorité, être utile, c'est pas quelque chose qui coule de source de prime abord. Parce qu'on a peu de moyens et peu de considérations. C'est un mandat qui est assez ingrat. Mais en mobilisant de l'énergie, en perdant pas de vue la raison qui nous a amenés à faire ce mandat, et grâce aux citoyens qui nous entourent, on arrive à être utile. Et puis, j'ai gonflé mon engagement aussi, parce que ça a été très difficile de se retrouver face à Gaëlle Nicolas dans toute la naïveté de citoyenne que j'avais en moi et ma sensibilité. Voilà, c'était, faut le dire, assez violent les premiers conseils municipaux. On n'est pas préparé face à une personne rodée à la stratégie politique. Et donc, je me suis retrouvée vraiment au pied du mur. Et puis, choquée aussi par ce qu'était la démocratie locale. Je n'avais pas idée. Je me doutais nationalement, comme beaucoup, que j'étais très déçue de la politique en général. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là difficile et même violent, hein, n'ayons pas peur des mots. Et donc, j'ai gonflé mon engagement aussi pour que ce que je traversais, les solutions que je trouvais, que je mobilisais avec l'équipe, c'est une super équipe d'ailleurs, servent à d'autres. Et puis, servent une cause plus importante que l'opposition à Châteaulin. Et je me suis engagée ensuite du coup au niveau national pour le droit des élus d'opposition et pour la lutte contre les violences aussi faites aux femmes par d'autres effets de domino. Et c'est ces engagements-là aujourd'hui qui me nourrissent le plus et qui me font me sentir le plus utile. Voilà, j'ai la sensation de faire ma part. On peut toujours faire plus, mais j'ai la sensation de faire ma part. Et c'est déjà bien.
Parlez-nous un peu de votre engagement au niveau national.
Alors, je suis secrétaire fédérale du Parti Socialiste dans le Finistère, à l'égalité femmes-hommes. Donc, c'est un premier engagement un peu plus vaste que la commune de Châteaulin. Et puis, je suis ambassadrice du réseau des femmes élues locales pour le domaine de l'opposition, Ça veut dire que j'ai créé un réseau avec élus locales pour les femmes d'élus d'opposition. Avec Julia Mouzon, on a décidé de faire une thématique opposition parce que moi, j'avais identifié, comme d'autres, des difficultés à mener son mandat dans l'opposition, d'autant plus quand on est une femme. Et puis, c'est un sujet qui fait écho à la démarche d'élu local de promouvoir la place des femmes en politique, parce que quand on est une femme dans l'opposition, ça donne encore moins envie de rester forte pour renouveler son engagement. C'est déjà pas facile. Alors, si en plus on est agressé verbalement ou démuni face à une confiscation des droits ou à une confiscation de l'expression, on peut vite tomber dans un mandat très très difficile à vivre. Et donc l'idée, c'était à travers ce réseau, à la fois d'apporter du soutien, de la sororité, de l'écoute, mais également d'apporter des solutions pratiques et légales.
Vous n'utilisez jamais l'expression « élu d'opposition ». Pour quelle raison ?
Déjà, elle n'est pas censée exister, puisque ni dans la loi ni dans la Constitution, la notion d'élu d'opposition n'est citée. On parle d'élu n'appartenant pas à la majorité. L'élu d'opposition, c'est un mot inventé, c'est une expression inventée par des majorités qui veulent se défaire de l'expression normale d'un contre-pouvoir élu. Quand on est élu, on va dire plutôt quand on fait campagne municipale, il y a le gagnant et le perdant dans l'imaginaire collectif. Mais c'est faux. Tous les gens qui rentrent au conseil municipal ont gagné. Ils ont été élus conseillers municipaux, tous. Et c'est le conseil municipal ensuite qui choisit qui va être le maire. En France, on n'élit pas le maire. On élit des conseils municipaux qui vont choisir le maire. Donc chaque personne est conseiller municipal. Et a les mêmes droits, est appelé de la même manière, a accès aux mêmes informations et a les mêmes droits d'expression. Ce qui change en revanche, c'est que lorsque la liste qui obtient le plus de voix arrive à obtenir ses conseillers municipaux, il y a une prime majoritaire qui fait que, même si l'écart de voix n'est que deux voix au niveau de toute une commune, la liste gagnante va avoir une prime d'élus qui va faire qu'ils vont être une majorité écrasante, alors même que l'écart peut être minime. Et c'est cette majorité écrasante qui a fait penser qu'ils étaient gagnants, systématiques, voilà, unilatéral presque, hein, et que les autres n'étaient là que pour s'opposer à ce qu'ils allaient dire, les empêcher de tourner en rond. Alors que l'idée n'est pas là. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre de conseillers municipaux qui dépendent de la taille de la commune, et puis ces conseillers vont faire débat. Ils vont faire débat autour de sujets. Et puis, dans la logique des choses, si on a un peu de bon sens, trouver des consensus, parce que chaque partie, en tout cas de cette liste, représente une partie de la population, hein, dont l'écart n'est pas si énorme, je le rappelle. Ce n'est pas ce qui se passe. On a donné à ces élus qui sont minoritaires un rôle d'opposition qui d'ailleurs n'est rarement vrai, parce qu'ils n'ont pas de moyens de s'opposer. On pourrait voter contre tout le temps que ça ne changerait rien. On est tout le temps en minorité à cause de cette prime. Hein, mais une minorité écrasante. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, mais on pèse rarement dans le débat.
Alors du coup, comment agissez-vous ?
On agit déjà en récupérant des droits qui sont donnés aux élus de la minorité. Il y a des droits d'expression, des droits de proposition, des droits à poser des questions orales, à poser des questions écrites, des droits à représenter sa ville, qui sont méconnus ou peu utilisés, parfois d'ailleurs mal organisés dans la commune, mal interprétés. On parle notamment de règlements intérieurs qui sont incomplets ou illégaux. On parle aussi de règles de droit, comme les convocations, l'accès aux documents qui sont régis par des lois, mais où les communes ont pris systématiquement l'habitude de faire le minimum syndical, si je peux me permettre. Hein. Les convocations à 5 jours, c'est légalement 5 jours minimum, mais ça pourrait être 10 jours si on faisait preuve d'un peu de bon sens. Les conseillers municipaux d'opposition, comme on les appelle, ont un travail, 5 jours pour lire 500 pages. C'est parfois compliqué. Donc, il n'y a pas de choses qui sont faites pour aider le débat, à préparer le débat. Pas toujours. Donc, cette application stricto sensus de la loi, elle est défavorable. Voilà, c'est le minimum. C'est comme quand on est payé au SMIC, c'est le minimum. Ça ne permet pas de vivre dignement, le SMIC. Mais c'est le minimum. Donc, on a le droit. Ce n'est pas parce qu'on a le droit que c'est bien.
Concrètement, Comment faites-vous pour avoir un droit à la parole et donc pour vous faire entendre?
Alors nous, on a créé une association qui s'appelle l'Atelier Citoyen, qui permet d'aller à la réalisation de choses ou de réflexions qu'on a menées durant la campagne pour faire perdurer cette réflexion, pour faire perdurer ce mouvement positif et optimiste qu'on avait mis en œuvre. Et puis ensuite, on n'hésite pas à organiser des réunions publiques lorsqu'on trouve cela utile. Et puis à travailler des dossiers particuliers lorsqu'ils sont beaucoup trop éloignés des sujets que nous portions lors de notre campagne et surtout de l'image qu'on se fait, nous, de la ville qu'on habite.
Votre deuxième qualité, c'est l'optimisme. Alors, comment faites-vous aujourd'hui pour être optimiste? Vous avez une recette?
Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour être optimiste. Je ne sais pas s'il y a une recette. Je crois qu'on est optimiste ou on ne l'est pas. Et être optimiste, c'est un peu perçu comme de la naïveté souvent. Mais je ne suis pas naïve. Je suis optimiste et idéaliste aussi. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'on peut faire mieux même quand ça va mal. Rien n'est écrit.
C'est ça que vous appeliez tout à l'heure faire votre part?
Faire notre part, ouais, et puis pas perdre de vue le fait que en faisant notre part, on peut améliorer les choses. C'est important, ça. Sinon, on est résigné. Et je veux pas être résigné.
On vous décrit parfois comme offensive, voire même redoutable. Vrai? Faux?
Alors non, je ne suis pas que ça. Je suis très très loin de la personnalité qu'on peut voir dans la politique. On me perçoit comme quelqu'un d'assez parfois véhémente ou caractérielle. En tout cas, je fais front quand il faut faire front. Mais je suis plutôt quelqu'un de sensible. Alors pas forcément réservée pour autant, mais très créative. Oui, je peins, je dessine, j'écris beaucoup, je lis énormément. J'écris des poèmes. J'écris des portraits de gens qui me touchent. Je suis généralement assez touchée par tout ce qui m'entoure. Et ben, en politique, je me mets dans la peau, pas de quelqu'un d'autre, mais j'ai un costume. J'ai un costume qui est un peu pare-balles. Voilà, j'ai un costume pare-balles. Alors, ça ne veut pas dire que je joue le rôle de quelqu'un d'autre, parce qu'au fond de moi, parfois, je sors éprouvée d'actions politiques ou touchée par les rencontres que je peux faire aussi dans la commune. Mais en fait, j'ai un costume pare-balles qui réagit aux injustices. Ça veut dire que si je suis face à un élu de la majorité ou quelqu'un, en tout cas, qui se montre injuste, irrespectueux, déshumanisant, insultant, méprisant, alors là, je mets ma créativité et mon énergie au service de la défense de cette injustice-là. Voilà. Et là, dans ces cas-là, je révèle une part de moi plus courageuse, moins prompte à la sensibilité et à l'émotion. J'arrive à canaliser et puis je me dis que je fais ça pour quelque chose de plus grand, pour une cause plus juste. Et donc, j'arrive à trouver de l'énergie pour le faire. Voilà. Mais ce n'est pas naturel.
À vous entendre, j'ai quand même le sentiment que s'engager au service de sa commune, parfois, ce n'est pas toujours facile.
C'est vrai que ce n'est pas un mandat facile, élu de proximité. Il y a des gens qui sont très cons, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parmi les élus ou parmi les concitoyens, d'ailleurs concitoyens, ça peut arriver. Mais ils sont quand même très 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 minoritaires. Et souvent, c'est parce qu'ils sont guidés par l'émotion. Un citoyen agacé, c'est un citoyen qui peut-être en a marre de ne pas avoir de trottoir devant chez lui ou pas d'éclairage le soir. S'engager en politique, c'est... faire preuve de don de soi, parce qu'on n'a pas forcément de reconnaissance du travail engagé. En plus, c'est bénévole. Enfin, en tout cas, nous, quand on est la minorité, on ne touche aucune indemnité de mandat. Donc, ça coûte même de l'argent. Donc, on ne le fait pas pour l'argent. On ne le fait pas pour s'occuper, parce qu'on préférait peut-être faire de la méditation, du yoga ou autre chose que ça. On le fait pour les rencontres humaines, justement. Ça, c'est important. Parce que si on aime l'humain, je pense qu'être élu, franchement, c'est génial. C'est une expérience redoutable. Parce qu'on n'agit pas pour soi, on agit pour les autres. Il faut être désintéressé. Ça, c'est génial d'être désintéressé et d'œuvrer pour les autres et pour le bien commun. Et ça, c'est gratifiant. Voilà. Il faut être capable de s'auto-gratifier. Et il faut être capable d'apprendre, il faut être capable de ressentir ce que les gens expriment. Au-delà de les écouter, il faut les écouter, mais il faut surtout ressentir. Et c'est génial. C'est dur, hein ? Ça peut être violent, ça peut être fatigant, ça peut être usant. Mais globalement, on apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres, sur la société. C'est très riche.
Alors certes, c'est très riche. Et en même temps, on a vu qu'à votre niveau, donc on ne gagne pas d'argent. On a vu qu'émotionnellement, ça pouvait être les montagnes russes. Du coup, c'est quoi le moteur de l'engagement dans tout ça ?
Alors, dans l'opposition, effectivement, on ne gagne pas d'argent. On y passe du temps, oui. Alors, oui, il faut que l'entourage soit... Alors, l'entourage soit d'accord. Bon, ça prête à interprétation. L'entourage soit d'accord ou pas, il faut que l'entourage comprenne qu'on ait envie de se mettre au service de l'autre et prenne la mesure de cet engagement pour ce qu'il est, quelque chose de citoyen, de beau, de grand, en tout cas quelque chose qui va au-delà de son petit confort. Bon, après, il y a des élus qui y vont pour l'argent, hein. Il y a des élus qui y vont pour le pouvoir, il y a des élus qui y vont pour l'ambition, il y a des élus qui y vont pour leur carrière, d'autres qui y vont pour leurs petits intérêts. Tous les élus n'y vont pas par engagement, par humanisme ou par envie de changer les choses. Là, chacun voit midi à sa porte et où il va trouver l'inspiration d'aller écouter son voisin pour faire changer les choses. Mais bon, après, c'est les électeurs qui jugent sur pièce aussi. Et ils jugent. L'abstention est là.
Sinon, j'avais une question autour du pouvoir. Quelle est votre relation au pouvoir ?
C'est le néant total, moi. J'ai absolument aucun rapport au pouvoir. J'en veux pas. Enfin, je fais pas ça pour ça. Je ressens aucun plaisir à avoir du pouvoir. Je trouve ça complètement désuète comme fonction. Enfin, on n'est plus dans un camp viking quelque part au Danemark. Non, non, le pouvoir, ça fonctionne pas. On voit bien que le pouvoir, ça fonctionne pas. Le pouvoir, ça met à mal la démocratie, ça met à mal les débats, ça met à mal les couches sociales, ça met à mal la société tout entière. Le pouvoir, ça laisse les gens sur le carreau, ça confisque la pensée, ça confisque les droits, ça confisque l'égalité, ça crée de l'injustice. Non, moi, je suis pour la coopération.
Alors, dans pouvoir, il y a aussi pouvoir d'agir. Autrement dit, c'est la question du pouvoir pour et non du pouvoir contre l'autre ou sur l'autre. Alors, quelle est votre relation au pouvoir d'agir, au pouvoir pour ?
Oui, pouvoir faire des choses pour les autres, là, ça a du sens. Mais c'est malheureusement pas assez souvent ce qui est recherché. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens s'engagent en politique. Parce que justement, le renouvellement politique qu'on attend tous, c'est ça. C'est de voir débarquer des citoyens qui ont envie de changer les choses, de s'engager et de pouvoir faire avec. Au lieu de laisser le champ libre aux gens qui ont soif de pouvoir sur les autres. Mais bon, si on ne s'engage pas, eux, ils seront toujours présents. Hein. Ils n'ont pas de problème à s'engager, eux. Et ils restent, en plus, longtemps. C'est vrai.
Ce serait quoi pour vous une bonne politique locale ?
Ce serait une politique revisitée. Ça, c'est un travail que j'ai commencé avec élu local. Donc ça, c'est vraiment la partie optimiste de l'iceberg. On est quand même pas mal d'élus à penser que la façon dont les organes politiques locaux sont organisés sont néfastes pour la démocratie et le débat local. C'est regrettable d'ailleurs parce qu'on voit bien, les gens se désintéressent. Ils ne viennent même pas aux conseils municipaux. Ils ne s'engagent plus en politique, ils ne viennent pas toujours voter. Et puis ça ne s'améliore pas statistiquement. Donc pour moi, une bonne façon de faire la politique locale, c'est de revisiter à la fois le statut de l'élu, mais pas tel qu'on l'entend à la télévision, c'est-à-dire pas le statut du maire. On l'a revu et revu, le statut du maire. Mais le maire, ce n'est pas tout. Hein. Je rappelle que c'est le conseil municipal qui est élu, pas le maire. Hein. Il y a une trentaine de personnes dans une commune. Enfin, Châteaulin, c'est 29, en l'occurrence. Ce qu'il faut, c'est redonner une capacité à s'exprimer, à peser, à créer des consensus dans les communes. Et ça, on ne peut pas y arriver avec des choses qui sont en place actuellement. Par exemple, moi je suis pour la limitation, voire la suppression de la prime majoritaire lors des élections. C'est-à-dire avoir des élections municipales qui sont à la proportionnelle. Voilà. T'as fait 60% des voix, t'as 60% des postes. Et l'autre a 40% des postes, des sièges. On aurait déjà des débats plus nourris et on aurait des capacités de travail aussi mieux réparties. Et des participations et des débats plus nourris. Une représentation réaliste de la population. Donc ça, c'est un fait. Et puis moi, je serais pour que tous les élus soient indemnisés. Pareil, ça évitera justement d'avoir eh bien, ceux qui décident de tout et les autres qui attendent que ça se passe et qui votent tout le temps la même chose. Hein, puisque c'est ce qui arrive aussi, parfois. Donc ça, ce serait une chose. Et puis, alors c'est pareil, dans le statut de l'élu local, avec le réseau, on a travaillé sur une proposition de loi où on a demandé à ce que le maire puisse être destitué par le conseil municipal. Aujourd'hui, un maire ne quittera ses fonctions que sur demande du Premier ministre. Je prends l'exemple de Balkany souvent. Il était en prison et il était encore maire. Je ne comprends pas que la majorité d'un conseil municipal ne puisse pas mettre hors de ses fonctions un maire. C'est un contre-pouvoir extrêmement important. On a des maires dans le Finistère qui sont accusés d'agressions sexuelles régulières, où on a des conseils municipaux qui ne peuvent rien faire. Alors ils démissionnent en bloc et refont des élections. Bon, tout ça, ce n'est pas très représentatif. Le débat il doit être plus fluide et plus simple. Donc une bonne politique serait une politique qui représente mieux les concitoyens et puis qui met autour de la table des conseillers municipaux qui sont équitablement informés, qui ont réellement les mêmes droits, parce que si dans la loi c'est prévu, dans les pratiques c'est pas toujours le cas, et qui aient du temps aussi pour mener leur mandat, hein, au niveau professionnel par exemple. C'est pas simple de devoir s'absenter, on pose des congés sans solde, hein, pour travailler les dossiers parfois. C'est pas normal. Quand on s'engage pas futilement, on s'engage vraiment. Voilà, on fait une promesse quand même. Enfin, une promesse électorale, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas une promesse en l'air. On fait une promesse, on tient ses promesses.
Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à ceux ou à celles qui hésitent encore à s'engager ?
Allez-y. Allez-y. Moi non plus, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. J'ai un bac plus 2. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait de grandes études. Mes parents n'avaient pas les moyens, ce n'était pas simple. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit entrer en politique. C'est d'ailleurs le constat qu'on fait. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une déconnexion entre les politiques et les citoyens. Ben, c'est normal. Ils ne viennent pas de la même société que nous. Ils ne viennent pas du même univers, ils ne sont pas moulés pareil, ils ne pensent pas pareil. Et justement, ce qui doit guider l'entrée en politique, ce n'est pas le niveau de compétence, c'est l'envie de faire quelque chose de plus grand que soi, pour d'autres gens que soi, la sensibilité au monde qui nous entoure, et puis une bonne dose d'humanisme, ou d'humanité en tout cas. Voilà, c'est ça qui doit nous guider. Si on a ça, on sera des bons élus. Et si on a des bons élus, on va redonner confiance aux générations futures de faire perdurer la démocratie, peut-être même de la rendre meilleure. Et c'est tout ce que je souhaite aux gens. Engagez-vous.
À 16h, Clarisse Réalet écrit des poèmes. Engagé, forcément. Celui-ci, avec lequel je vous propose de terminer, s'intitule « Liberté ».
Certains disent de la liberté qu'elle est acquise, qu'elle se conquiert, qu'elle se défend, qu'elle se vole, qu'elle se gagne. Pauvre liberté, sujette à tous les débats, alors qu'elle ne veut qu'être là. Pour qui la verra et pour qui la prendra, elle sera simplement là.
Cette émission a été réalisée en avril 2024.